Chaque vendredi de 19h15 à 20h, Radio Capi vous propose la tribune de la presse. Analyse, explications et débats autour de l'actualité de la semaine avec les journalistes de la presse écrite et audiovisuelle. La tribune de la presse, vendredi de 19h15 à 20h, un résumé complet de l'actualité de la semaine. Une émission à réécouter sur internet, radiocapi.net.
La RDC regorge de plusieurs ressources naturelles qui sont parfois pas bien exploitées, qui sont exploitées de manière irresponsable. Parmi ces richesses, on cite le bois, les minerais et bien d'autres matières. Pour les experts en environnement, gérer durablement les ressources naturelles du pays, pour les gérer comme il faut, il faut entre autres que les populations concernées comprennent ce que ces ressources leur apportent. Il faut également des formations sur les cadres juridiques sur la gestion des ressources naturelles. Alors, quel est donc l'intérêt de gérer durablement les ressources naturelles de la République démocratique du Congo? Pour en parler aujourd'hui, nous recevons Maître Mpoy Augustin. Il est le directeur exécutif du Conseil pour la défense environnementale par la légalité et la traçabilité. Maître Mpoy, vous êtes d'accord que nos ressources naturelles ne sont pas très 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 bien gérées?
Oui, la RDC, vous le savez, c'est un pays aux grandes potentialités sur le plan des ressources naturelles. Ces ressources qui auraient dû générer les richesses pour l'État, pour les provinces, pour les entités locales, pour les populations, malheureusement, n'arrivent pas à servir. Et nous avons compris que nous avons une responsabilité, nous en tant qu'organisation spécialisée, à la fois sur les questions d'environnement et de gestion des ressources naturelles, pour pouvoir apporter notre contribution auprès de services publics qui sont en charge de les gérer, pour que on mette en place des systèmes fiables qui garantissent une gouvernance responsable et qui soit respectueux à la fois de l'environnement et de considérations sociales.
Quelles sont ces ressources naturelles? On peut Vous pouvez citer
Les ressources naturelles, la RDC en est bien dotée. Vous en avez renouvelables, qu'on appelle des ressources naturelles renouvelables, les ressources non renouvelables. Les ressources renouvelables, c'est l'eau. Nous sommes la première puissance hydroafrique au niveau de l'Afrique. Il n'y a pas un pays qui a autant d'eau, des ressources en eau douce comme la RDC. Est l'un des plus grands dans le monde. On a la plus grande superficie des forêts d'Afrique et l'une des plus grandes dans le monde. Nous avons une faune et une flore qui est assez diversifiée. Nous avons du pétrole. Demain, je pense qu'on parlera de la RDC comme un des pays pétroliers sur la planète. On a des minerais de toutes sortes que je ne pourrais pas les énumérer ici, de l'or, le diamant, les colombotantalites, et voilà. Donc, la RDC est bien pourvue.
Là, ce sont des ressources renouvelables.
Des ressources, je les ai citées, renouvelables et non renouvelables. Donc, ce qui est non renouvelable, c'est les mines, c'est le gaz, c'est le pétrole. Et les renouvelables, c'est les ressources en eau, c'est les forêts, c'est la faune et la flore.
Et la flore. Voilà. Donc, le pays a beaucoup de ressources, si on peut les dire ainsi. Quelles sont les raisons qui font qu'aujourd'hui, ces ressources ne sont pas tout à fait bien gérées?
Bon, il y a d'abord le problème de gouvernance. Comme tous les pays du tiers-monde en voie de développement, on a un sérieux problème de gouvernance, la désarticulation de la machine qu'on appelle l'État. Il y a parfois aussi de la complaisance dans l'attribution des droits d'exploitation sur les ressources naturelles. On n'a pas un système de suivi efficace des chantiers d'exploitation de ces ressources naturelles. On a un niveau de déploiement de l'État au niveau des sites d'exploitation qui est insuffisant. Nous n'avions pas des instruments de gouvernance adéquats et appropriés qui soient modernes et conformes aux standards internationaux. C'est maintenant seulement que le pays est en train d'entreprendre des réformes qui vont dans le sens d'administrer ses ressources dans une optique de la durabilité. Vous savez que on a eu un nouveau code minier qui est en voie d'être revu, un code forestier. On est en train de travailler sur la loi sur le pétrole. On a eu une nouvelle loi sur l'environnement pour garantir que l'exploitation de ces ressources ne porte pas atteinte à l'intégrité environnementale. C'est des nouveaux instruments à l'élaboration desquels nous avons énormément concouru. Et maintenant, nous sommes en train de mener un travail qui va dans le sens d'appuyer l'État dans son mandat qui est celui de gérer le secteur des ressources naturelles.
Et comment gérer durablement les ressources naturelles de la RDC, Maître Mpoé?
Il faut mettre en place, comme je l'ai dit, des outils de gouvernance et de gestion, des bonnes lois d'abord.
Oui.
Et
mais
des
les
bonnes lois,
nous
ne
les
suffisent pas.
Nous avons toujours des lois, des bonnes lois.
J'en viens.
Oui.
Les bonnes lois ne suffisent pas.
Oui.
Il faudrait avoir des approches qui vont dans le sens d'aider à une bonne application des lois. Et c'est des choses qui manquent et nous sommes en train aujourd'hui, nous au niveau des CODELT, de concevoir des outils qui permettent justement d'arriver à une bonne application des lois. Parmi ces outils, nous avons des grilles de légalité qui permettent d'identifier par exemple qui doit faire quoi dans le secteur, différents secteurs des ressources naturelles, comment il doit les faire, les procédures qui sont prescrites, voilà. C'est des tableaux qui sont simples et qui résument toute la chaîne d'exploitation des différentes ressources naturelles et que nous mettons à la disposition des administrations, mais également qui peuvent servir au grand public et notamment les organisations non gouvernementales qui travaillent pour le monitoring de gestion et d'exploitation de ressources naturelles. Je pense que il faudrait mettre en place des systèmes de contrôle qui soient fiables avec des agents qualifiés pour les secteurs concernés et une machine de l'État qui fonctionne avec un budget suffisant qui soit affecté au contrôle. Parce que chez nous, ça c'est une autre difficulté, c'est que vous n'avez pas suffisamment de budget qui sont consacrés au niveau des contrôles.
Prenons par exemple le cas de la forêt.
Oui.
Comment aujourd'hui on peut gérer durablement? On peut bien gérer la forêt. Il y a un code forestier, nous avons tout ça. Mais qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour une gestion efficiente de nos forêts?
Je pense qu'il nous revient d'interpeller les autorités qui sont en charge de la gestion. Je pense qu'il faut avoir des bonnes personnes à la place qu'il faut et qui comprennent quelles sont leurs attributions dans ces secteurs, quels sont les enjeux et les attentes au niveau non seulement national, mais également au niveau de la communauté internationale. Ça joue également, parce qu'on a vu dès qu'il y a un très bon ministre à la tête d'un ministère, s'il comprend bien son rôle et s'il est, il a le fardeau du pays et du secteur qu'il est en charge de gérer, je pense qu'il prend généralement des actions qui vont dans le bon sens. Mais si vous avez un ministre qui arrive, qui a d'autres priorités que les priorités d'une gouvernance saine de son secteur, ce qui va arriver, c'est que les mesures adéquates qu'il est censé prendre, il ne les prend pas. Et le pays perd du temps et personne ne peut faire à sa place ce qu'il doit faire lui-même. Et pour le lui faire faire, nous, parfois, au niveau des organisations non gouvernementales, on adresse des pétitions, on adresse des mémorandums aux autorités. Parfois, il n'y a pas de réaction. Et aujourd'hui, nous sommes en train de développer une forme d'action que nous n'avions pas prévue au départ, mais qui nous a été inspirée par l'observation de tout le temps. C'est que aujourd'hui, nous déployons ce qu'on appelle le plaidoyer judiciaire, qui consiste à faire annuler des actes administratifs qui sont pris au niveau du gouvernement et qui vont dans le sens de violer les lois, la constitution et tout ça, voilà. C'est des actions qui permettent une certaine conscientisation au niveau des autorités gouvernementales, parce que effectivement l'impulsion doit venir d'eux. Nous en interpellons également les parlementaires qui ont un grand pouvoir,
oui,
celui de voter les lois, c'est vrai, mais également celui d'exercer le contrôle sur l'action du gouvernement dans les différents secteurs de la vie nationale, et spécialement ici dans les secteurs des ressources naturelles. Et donc, nous les interpellons à bien jouer leur rôle. Nous pensons que tous les outils de suivi de la légalité que nous sommes en train de mettre en place peuvent également servir pour la fonction parlementaire du contrôle. Ils peuvent s'en servir pour poser des bonnes questions. Les aspects qui ne marchent pas doivent faire l'objet d'interpellations. Il y a des outils parlementaires qui sont prévus à cet effet. Nous pensons que on va compter sur eux tout en continuant à mettre la pression sur le gouvernement, à l'accompagner également, parce que c'est un partenaire pour nous en tant qu'organisation non gouvernementale.
D'accord, nous avons deux auditeurs en ligne, Jean d'Amboche d'Écologie et Jean de Mbandaka dans la province de l'Équateur.
Radio Capi fête son 13e anniversaire avec les étudiants de l'ISIPAMUCHI à Kinshasa. Au menu, une émission spéciale sur le bon usage des médias sociaux, sur les débouchés après des études en informatique et bien d'autres sujets encore. Au Capi Service, un rendez-vous exceptionnel à ne pas rater ce vendredi 13 mars 2015 de 9h à 11h, heure de Kinshasa. Au Capi Service, à votre service.
Jean d'Amboche, vous êtes à Colosie, bonjour.
Bonjour, merci. Bonjour à l'invité ainsi qu'à tous les auditeurs de la radio Capi.
On vous écoute, Jean.
Voilà, j'ai une préoccupation qui cadre avec l'article 56 de notre constitution qui dit « Tout Congolais a droit de se réjouir de ses ressources naturelles ». Alors, je voudrais savoir comment est-ce que l'invité peut nous expliquer la manière de se réjouir avec nos ressources naturelles. Pourquoi je pose cette question? Parce que vous savez, la ville de Colosie, qui est ma ville native, est à vocation minière. Alors aujourd'hui, pour ceux qui sont passés par Colosie, connaissent bien le quartier Kasulu. Vous savez, ici chez nous, ce quartier est aujourd'hui transformé en carrière minière. Pourquoi? Parce qu'un jour, quelqu'un a découvert le filon des minerais. Alors c'est tout le monde qui creuse dans leur parcelle. Aujourd'hui, monsieur le journaliste, je vous dis, ce quartier est transformé en carrière minière. Comment est-ce que l'invité peut réagir face à cette situation pour bien sauvegarder nos ressources naturelles?
D'accord, merci. Jean, vous êtes à Mbandaka, bonjour.
Bonjour, je dis bonjour à notre éminent invité et aux auditeurs de Radio Capi.
Quelle est votre question, Jean?
Moi, je voudrais contribuer un peu à la préservation de la forêt, parce que je suis forestier. Je voudrais qu'on s'inspire un peu, à part l'arsenal juridique dont parlait l'invité et tout ce qu'on peut mettre sur pied pour préserver la forêt, on peut se servir de l'exemple de la santé, avec nos centres de santé et des postes de santé, où les agents de l'environnement seront pris près de la population, pour les sensibiliser, les conscientiser, les informer, parce que il y a les trois fléaux qui détruisent nos forêts. C'est d'abord l'agriculture sur brûlure, il y a la carbonisation et il y a l'exploitation tant artisanale qu'industrielle. Alors, s'il y a des agents de l'environnement dans tous nos villages, alors ça sera une bonne éducation à la base qui pourra aider chaque citoyen de savoir comment préserver les ressources naturelles, par exemple la forêt et les consorts. Ça serait vraiment travailler sur le terrain et ça serait peut-être plus efficace. Et si on mettait l'argent qui récolte le domaine de comment, ce qu'on paye pour le reboisement là, on mettait ça à la disposition de ces agents là, ça serait une très bonne chose. Parce que si on doit rester à discuter, à parler, si, mais il faudrait copier un exemple qui est déjà très rentable sur notre territoire.
D'accord, merci Jean de Mbandaka. Christian, vous êtes à Kalimi, bonjour.
Bonjour, je dis, c'est Christian Mayembe.
Christian Mayembe, on vous écoute.
Oui, moi je voulais juste demander à l'invité au sujet des minéraux qu'il a parlé, il y a des minéraux renouvelables et les ressources non renouvelables. Maintenant, malheureusement, comme lui a parlé, avec ces ressources non renouvelables-là, il y a des entreprises qui viennent et qui exploitent ça sans pour autant donner quelque chose à la population. Je parle là des infrastructures, soit des routes, soit des hôpitaux. Maintenant, quelle est l'attitude, je voulais lui demander, quelle est l'attitude que la population peut adopter à ces entreprises-là, parce que nous remarquons que ces minéraux peuvent terminer et il n'y a pas moyen de les renouveler et la population reste pauvre et ne bénéficie rien de ces entreprises-là. Alors, pour que la population s'approprie démarche, qu'est-ce qu'elle peut faire en fait de bénéficier quelque chose aux entreprises là. Merci, Jody.
Bien. Maître Poy, vous avez la parole.
Oui, je commence par la première question qui vient de Colouisi, de Jean Dabochi.
Tout Congolais a droit de se réjouir.
Voilà, c'est une disposition de la nouvelle constitution qui d'ailleurs est la première à s'exprimer de cette façon-là, qui présente les ressources naturelles comme étant des mots comme porteuses des moyens d'existence pour les populations. Je pense que plus loin, si on continue au niveau de l'article 57, il est même érigé en infraction le fait pour une personne quelconque, qu'elle soit détentrice ou non de l'autorité publique, mais qui conclut des arrangements, des actes, des conventions, des accords qui ont pour effet de priver les personnes physiques, les personnes morales, la nation congolaise, de bénéfices des ressources naturelles.
À un certain moment, dans notre pays, on a décrié même des contrats léonais.
Oui, bien sûr.
Ces actes-là, étrangères.
Tous ces actes-là sont aujourd'hui érigés en infraction de haute trahison lorsque la personne qui les commet est porteuse d'un mandat public.
Est-ce que votre structure amène des actions dans le sens de l'annulation pure et simple?
Oui, bien sûr, bien sûr. Nous sommes en train aujourd'hui de conscientiser d'ailleurs et de faire comprendre qu'aujourd'hui, il y a une très grande réforme judiciaire qui est en train d'être mise en place. On aura des tribunaux et des cours administratives à la tête desquels sera le Conseil d'État. Et leur mandat, c'est juste de juger de la légalité des actes qui sont posés par ceux qui gouvernent, ceux qui ont l'action du gouvernement entre leurs mains. Et c'est ce qu'on appelle le recours en annulation. Donc des actes, des contrats qui sont conclus par les autorités publiques et qui ne vont pas dans le sens de l'intérêt de la nation, dans l'intérêt du pays, et qui vont dans le sens de violer les procédures, les lois, les dispositions qui sont consacrées, peuvent être frappées par le contentieux d'annulation devant un certain nombre de juridictions. Voilà, ça sont des outils qu'on peut que la population peut utiliser pour faire valoir ses droits. Alors, la situation de Colouisi, un quartier
qui est transformé en carrière.
Voilà. Alors ça.
Et avec les risques que les gens exploitent le cobalt, avec les rayonnements.
Risques, bon, voyez. Alors, cela pose un sérieux problème de la planification dans l'utilisation de notre territoire et spécialement dans l'exploitation des ressources naturelles. Nous avons jusqu'à présent mis en œuvre un système qui a consisté à affecter les espaces, à attribuer des droits d'exploitation sur les ressources naturelles sans qu'au préalable ces actions, ces opérations ne soient précédées par la planification. Et nous avons un décret, c'est vrai, qui est vieux, qui date du temps colonial, qui prévoit que tous les contrats d'exploitation, avant d'être attribués, devaient être précédés par des opérations de planification dans le cadre de l'aménagement du territoire. Ça a traîné et ça fait qu'aujourd'hui, chaque fois qu'on découvre une ressource naturelle, aussitôt on se met à l'exploiter sans contrôle et de manière tout à fait...
Et sans contrepartie pour la population. Vous avez suivi Christian Mahim de l'Académie.
Voilà, sans contrepartie. Alors que nous avons des dispositions aujourd'hui qui organisent le partage des revenus découlant de l'exploitation de ressources naturelles. Le code minier a des dispositions qui sont prévues à cet effet. Vous en avez également au niveau du code forestier, au niveau du secteur pétrolier, et même si la loi ne le dit pas, la prochaine le dira d'ailleurs, mais la pratique veut que tous les contrats de partage de production qui sont conclus par le gouvernement prévoient toujours des sommes qui sont annuellement payées aux communautés pour pouvoir financer le développement.
Quel pourcentage, par exemple?
Généralement, c'est un forfait qui varie entre 150 000 et 200 000 dollars. Mais vous savez qu'aujourd'hui, le seul site d'exploitation qui est actif aujourd'hui, c'est le site de Mwanda avec Perenco. Ces sommes sont, semble-t-il, régulièrement payées chaque année. Quelles sont les réalisations qu'on en fait? Bon,
qu'est-ce qui a été fait en termes d'hôpitaux, écoles, routes?
J'aimerais bien que les gens de Mwanda qui sont en ligne puissent nous dire s'ils bénéficient des retombées de
la manne pétrolière.
De la manne pétrolière. Mais également, voilà, une forme de rétrocession qui est prévue dans le cadre de la fiscalité.
Bien, avant de reprendre à Jean de Mbandaka, on va accueillir Adrien de Kalemi et Albert Mwananga de Kananga.
Au Capidance, du mercredi à jeudi de 21h à minuit, le vendredi de 23h à minuit et le samedi Megamix de 19h à minuit. Au Capidance New Wave, tous les mercredis de 21h15 à 22h, c'est la découverte des nouveaux talents, des nouveaux sons, des Congolais d'ici et d'ailleurs.
Adrien, vous êtes à Kalemi, bonjour.
Bonjour aussi à l'invité, bonjour à tous les auditeurs. Et je rappelle encore, c'est Adrien Monimal, je vous appelle à partir de Kalemi.
Alors la question aujourd'hui, c'est comment gérer durablement les ressources naturelles de la RDC. Qu'est-ce que vous avez à nous dire?
Oui, j'ai trois questions. J'ai rejoint d'abord mon ami Christian Mayembe, qui a appelé toujours à partir de la même ville, qui a parlé sur la question d'abord minière. Nous constatons, avec un exemple typique, ici à Kalemi, il y a des mines comme Kisengo, mais vous allez trouver que c'est la population locale qui a découvert, mais après, il y a des sociétés minières qui viennent, qui déguerpissent toute la population. Alors, la première question que j'aimerais poser à l'invité, c'est comment est-ce que la population locale peut-elle aussi participer à la gestion ou bien bénéficier même des minéraux qui peuvent être découverts à son sein? Deuxième question, il y a aussi l'exploitation de forêts. Deux fois, le gouvernement prend des mesures pour arrêter l'exploitation d'arbres. Or, que nous savons, la population ne vit que des arbres, entre autres la braise, fabrication des meubles, ainsi de suite. Comment est-ce que l'invité peut-il nous dire comment est-ce que la population peut faire en cas d'interdiction d'exploitation de forêts? Ainsi que la troisième question, Kalemi aussi un grand lac qui a des poissons, mais vous allez voir, après un certain temps, le gouvernement prend des mesures pour la fermeture du lac et de la pêche. Donc il y a des populations qui ne vivent que de la pêche. Comment est-ce que la population peut s'en prendre, la population vivant bien sûr, dépendant de la pêche? C'est ça les trois questions.
Bien, merci. Albert Mwananga de Kananga, bonjour.
Bonjour, je dis Daniel Kachama.
On vous écoute. Hein.
Bonjour à notre invité. Oui, j'ai deux questions à poser à notre invité. Et la première, celle de savoir, est-ce qu'on peut dire que le gouvernement congolais n'est pas au courant de tout ce qui se passe, disons, pour l'exploitation illicite des ressources de notre pays? S'il est au courant, et alors quelles sont les mesures déjà prises pour un peu mettre fin à ce genre d'exploitation? Parce que dans un État souverain comme le nôtre ici, et on n'arrive pas à appliquer des mesures qui peuvent un peu anéantir toute exploitation possible et décrier par-ci, par-là. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'il y a ça ne va pas au niveau de nos autorités congolaises pour ne pas arriver à mettre fin à ce genre d'exploitation illicite? Ça, c'est la première question.
Oui, la deuxième?
La deuxième, alors, quel est l'impact ou quel sera l'impact de l'exploitation illicite de les ressources naturel ici en RDC sur la vie quotidienne et la population, parce que nous voyons que l'exploitation illicite des ressources de notre pays, et donc nous voyons qu'il y a toujours peut-être la complicité et la population ne profite à rien à tout ce qui est exploité. Alors quel sera alors l'impact de ce genre d'exploitation?
D'accord, merci pour toutes ces questions. Je reviens à notre invité, Maître Augustin, vous avez la parole.
Oui, je crois que la plupart des questions qui sont posées vont dans le même sens. C'est de voir comment faire en sorte que les populations bénéficient de l'exploitation des ressources naturelles de leur milieu. Ce qu'il faut d'abord dire, c'est que nous avons quand même un système institutionnel qui est assez bien conçu. Les droits des populations, les droits des communautés locales sont des droits reconnus. D'abord au niveau de la législation foncière, au niveau de la législation minière, forestière, tous ces textes reconnaissent effectivement des droits des populations sous diverses formes. Vous avez le droit de recevoir l'information lorsque un titre doit être attribué sur des ressources qui renferment les terres locales. le droit d'être informé, le droit de réagir à l'information qui est donnée. La population a également le droit, pour certains secteurs comme les forêts, de donner leur consentement à l'attribution par l'État d'un titre d'exploitation sur les forêts qui relèvent coutumièrement de leur droit. Donc voilà. Il y a un travail de vulgarisation qu'il faut faire, non seulement à l'endroit de la population, il y a également un travail qu'il faut faire à l'endroit de l'autorité qui attribue des droits. Il est vrai que tous les titres sur les ressources naturelles sont prévus pour être attribués au niveau central par les autorités centrales de la République, mais très souvent il leur échappe le fait que ces attributions devraient être précédées par des opérations d'information et des consultations des populations, parce que lorsqu'elles sont consultées, les populations, les communautés, elles ont la possibilité, l'occasion de pouvoir se prononcer, d'exprimer leurs attentes et même d'exiger des garanties en termes de compensation, en termes de partage des revenus qui pourraient en découler. Ça, ce sont des exigences qui sont consacrées par la plupart des conventions internationales auxquelles, du reste, la RDC a souscrit et qui sont traduites dans nos textes. Donc, le droit d'être informé, de donner le consentement à l'attribution préalable par l'État d'un titre d'exploitation est quelque chose qui est déjà assez partagé au niveau de la littérature internationale et qui est quelque peu déjà reflété au niveau de nos lois, au niveau de certains secteurs d'activité économique. Alors, il appartient à la population de le savoir, la société civile, les ONG, de pouvoir vulgariser l'information, mais également exercer des actions de plaidoyer, de monitoring auprès des autorités qui sont en charge d'attribuer ces droits. Il n'est pas normal aujourd'hui, dans le contexte où on parle de l'équilibre, on parle du développement vert, qui consiste à établir un équilibre entre les considérations économiques, sociales et environnementales, il n'est pas normal que on puisse continuer avec des systèmes d'exploitation, de production économique, et qui mettent de côté à la fois les aspects sociaux, donc qui impliquent les bénéfices que les populations devraient en tirer, mais également les considérations environnementales pour garantir la préservation de l'environnement.
On va accueillir Arsène Degouma au Nord Kivu. Bonjour Arsène.
Bonjour.
Quelle est votre question Arsène?
Au fait, je suis fier de la réaction de notre invité parce que les points que je voulais justement aborder, je viens de sentir que je suis touché. Bon, parce que vous savez, je me souviens, bon, moi je suis de Sud Kivu et je me souviens au niveau de Chabunda, bon, il y a autant de minéraux, mais la population vraiment bon, critique souvent, nous avons des richesses, nous avons des minéraux. Mais pour l'exécution, soit au peuple autochtone, c'est zéro. Et quelque part, bon, je vois que, bon, il fallait qu'on informe la police, parce que, bon, nous avons la police de la mine. Vous savez, souvent, il y a des civils chinois qui quittent Bukavu, ils aillent là-bas, ils achètent des minéraux dans les manières illicites, et vous vous rendrez compte, bon, pour la population, donc le peuple des autochtones, il n'y a aucune exécution des projets, des écoles sont dans les conditions vraiment critiques, il n'y a pas des hôpitaux, et souvent, vous vous rendez compte, la population souvent critique les pays. Donc moi, je vois qu'il fallait pour mettre trop de sensibilisation à montrer à la population, bon, tellement que le Congo est riche, il y a des minéraux, mais nous avons encore des difficultés, on doit les faire effectuer pour que notre pays soit bon. Parce que quand la population centrale, il n'y a pas de projet pour eux, ça sera zéro. C'était ça ma réaction.
D'accord, merci Arsène de Goma. Il y a Jean de Mbandaka qui a dit, à part l'arsenal juridique, il y a les fléaux qui détruisent la forêt, la carbonisation, l'exploitation de bois, l'exploitation artisanale et industrielle. Il a parlé aussi de l'agriculture sur brûlis. Donc il faut également sensibiliser, il y a aussi un besoin de sensibilisation. Alors Codelte organise des formations sur les cadres juridiques, sur la gestion des ressources naturelles. Quel est donc l'intérêt de ces formations dans la gestion gestion des ressources naturelles.
Oui, l'intérêt d'abord de ces formations, c'est qu'il faut apporter l'information. Je suis chrétien, dans la Bible il est écrit que mon peuple meurt faute de connaissances. Et je pense que les connaissances c'est important. Lorsqu'une personne est informée, je pense qu'il adopte des attitudes qui soient conséquentes. Et l'information que nous essayons d'apporter est d'abord celui qui concerne le cadre légal, institutionnel. On a des bons textes, il faut qu'on se le dise. J'ai fait un certain nombre d'études comparatives entre notre système et un certain nombre de systèmes qu'on a au niveau de l'Afrique. Il faut dire que au niveau de la conception, la RDC a des systèmes juridiques institutionnels de gestion et d'exploitation de ressources naturelles qui soient plus avancés en termes d'intégration des droits locaux, des populations, des communautés et tout ça, mais qu'on a un grand défi au niveau de l'application. Et les formations que nous faisons sont destinées à toutes les parties prenantes. Elles concernent aussi bien les autorités qui ont reçu en charge un certain nombre de pouvoirs, des compétences dans les secteurs extractifs, donc des ressources naturelles et environnementales, pour qu'elles comprennent véritablement le sens de leur mandat statutaire et qu'elles les exercent en toute légalité, parce que recevoir un pouvoir c'est une chose, l'exercer en conformité avec les procédures et les conditions qui sont prévues en est une autre également. Donc on essaye de produire des outils comme ça qui aident à la bonne compréhension du cadre juridique institutionnel de gestion des ressources naturelles pour les autorités, pour les administrations. On travaille également avec à l'échelle des provinces avec les députés provinciaux. Nous travaillons également avec les magistrats parce qu'ils sont en charge de gestion du contentieux dans l'exploitation et la gestion des ressources naturelles. Et la plupart des disciplines qui concernent les ressources naturelles n'ont pas fait vraiment l'objet d'enseignement dans la faculté des droits, de sorte que la plupart des juristes qui sont sur les marchés ne les connaissent pas assez, comme les questions sur l'environnement, la conservation de la nature, les forêts. Et donc voilà, nous destinons ces outils de renforcement des connaissances, des capacités pour améliorer l'application des lois, non seulement au niveau de ceux qui sont en charge de les appliquer, qui sont officiels, institutionnels, mais également nous visons à des outils très simplifiés à l'intention des communautés locales, qu'elles comprennent véritablement quels sont les droits qui leur sont garantis, comment ils peuvent les réclamer. Nous travaillons également avec les organisations de la société civile à l'endroit desquelles nous avons des outils qui les aident à faire le monitoring, le plaidoyer, à poser des bonnes questions et à faire le suivi des systèmes d'exploitation de ressources naturelles. Nous sommes aujourd'hui en train de militer pour qu'il y ait des systèmes d'audit indépendants sur la manière dont les titres sont attribués et sur la manière dont les contrôles sont effectués. Je pense que ce sont des outils modernes aujourd'hui qui, lorsqu'ils sont intégrés dans nos textes, qui sont appliqués effectivement, incitent à la responsabilité, aussi bien au niveau des autorités, des administrations, mais également au niveau des acteurs non étatiques. Voilà le sens des formations qu'on est en train de faire. Nous avons mis 8 ans déjà dans ce secteur à nous former, à nous spécialiser, à étudier les lois et on pense que le droit peut servir aujourd'hui. Je le disais l'autre fois que le droit n'est pas que au niveau de la démocratie, au niveau des libertés fondamentales, au niveau des autres aspects de la gouvernance. On a également besoin du droit dans les secteurs extractifs parce qu'il peut servir. L'état de droit, c'est également un état qui est respectueux de ses propres règles dans les domaines d'exploitation, de gestion des ressources naturelles.
Bien, merci Maître Ampoy Augustin, directeur exécutif du Conseil pour la défense environnementale, pour la légalité et la traçabilité. Merci d'avoir répondu à notre invitation et à la prochaine.
Merci, ça a été avec plaisir.